Tout terrain.
Tout terrain.
Tout terrain.
L'émission de Xavier Crombet.
Sur le trottoir d'à côté.
Bonjour et bienvenue sur Tout terrain. Avec mon invité, Philippe Calin.
Première partie.
Nous allons aujourd'hui arpenter avec mon invité et faire se rencontrer deux terrains dont il a beaucoup été question dans notre actualité récente, le terrain de la fièvre Ebola et celui de l'éthique. Philippe Calin, bonjour.
Bonjour.
Philippe, vous êtes médecin de formation. Vous avez aussi travaillé dans la santé publique, notamment à l'OMS. On reviendra un peu sur votre parcours. Et vous êtes actuellement chargé de recherche à l'UREP, unité de recherche
sur les enjeux et pratiques humanitaires.
Voilà, de la section suisse de Médecins sans frontières. Donc d'abord, première question, l'éthique est un gros mot peut-être. Qu'est-ce que faire de l'éthique et comment on passe de la médecine à la santé publique puis à l'éthique?
Alors, deux questions bien différentes. J'abordais l'éthique de manière tout à fait dilettante, par une série de circonstances que je vais expliquer, qui sont en rapport avec mon implication dans la réponse à une épidémie d'Ebola, il y a de cela exactement 20 ans. L'éthique, j'ai un peu lu dessus, je ne me considère pas du tout comme un spécialiste. Et pour moi, l'éthique, c'est un raisonnement avant tout, lorsqu'il a à faire des choix difficiles, entre quelle conduite est la plus appropriée pour résoudre une situation critique qui implique des personnes, leurs interactions sociales, leurs souffrances. Et donc l'éthique, c'est certainement pas quelque chose qui est normatif pour moi et qui permet de dire qui a tort et qui a raison. Il y a un aspect de sanction, parfois dans une certaine forme d'éthique, mais c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Alors, l'éthique, si je suis la définition des philosophes, c'est une branche de la philosophie qui s'appelle la philosophie morale. On a tous des opinions morales, des opinions sur ce qui est bien, sur ce qui est mal. L'éthique, c'est une manière d'aborder ces questions morales par le dialogue et par le raisonnement, et en essayant de trouver tous les éléments qui font qu'une situation est difficile, et en recherchant la solution la moins mauvaise souvent. Et parfois il n'y en a pas et on se trouve dans une situation sans issue qui s'appelle un choix tragique. Ça arrive aussi dans l'humanitaire. Alors la deuxième question c'était sur comment je suis arrivé
à l'éthique. Vous avez déjà commencé à...
Donc j'avais commencé ma carrière comme médecin, spécialiste en maladies infectieuses, chercheur en virologie. Et en 1995, j'ai été envoyé aux États-Unis au CDC, Centers for Disease Control,
le centre de contrôle sur les maladies,
voilà, Atlanta, dans un laboratoire où on étudiait les filovirus. Donc les filovirus, c'est cette famille de virus à laquelle appartiennent les différentes variétés du virus Ebola. Et par un hasard absolu, je dirais, 2 mois après mon arrivée, il y a eu ce qui était à l'époque une grande épidémie au Zaïre, qui s'appelle maintenant République démocratique du Congo. C'est une épidémie qui a fait 315 victimes à l'époque, ce qui est très peu à la lumière de l'épidémie actuelle.
Oui, il y a eu un changement d'échelle.
Un changement d'échelle, mais qui pour moi était un événement très marquant. Je me suis retrouvé comme clinicien là-bas, beaucoup moins que comme virologue, dans une situation où il n'était essentiellement pas question de soigner les gens, mais de les accueillir dans un pavillon d'isolement de l'hôpital pour qu'ils ne contaminent plus leur entourage et pour qu'ils meurent pour la plupart. Il s'agissait d'une épidémie qui avait 90% de mortalité. Donc la plupart mouraient et l'idée c'était d'abord de stopper la contamination du personnel soignant et puis à s'assurer que les patients mouraient dans des conditions les plus dignes possibles. Et j'ai été amené à réfléchir à ça beaucoup plus tard, après que j'ai rejoint MSF, quand, lors d'une autre épidémie en Ouganda, on m'a rapporté des choses similaires. Et le directeur de la section suisse d'MSF m'a demandé d'écrire un papier de réflexion sur cette situation. Encore une fois, pour s'insurger contre des comportements discutables, mais essayer de comprendre pourquoi, par exemple, les scientifiques, dans leur enthousiasme, en viennent à des pratiques qui sont finalement pas très nocives, mais qui font un peu fi de l'autonomie des gens et oublient que voilà, on ne peut faire de recherche que quand des conditions de protection de la dignité des gens sont remplies. Donc c'était en 2010, je pense, et c'était un premier papier que j'ai écrit sur éthique de la recherche en situation épidémique causée par des filovirus. C'est là que j'ai découvert les plaisirs d'une réflexion éthique et les implications, et donc j'ai continué à en faire mon sujet de recherche principal, qui est l'éthique humanitaire. Et l'éthique humanitaire s'adresse à des situations très complexes qui dépassent le cadre de l'éthique médicale habituelle. Alors je donnais hier dans une réunion un exemple où Médecins Sans Frontières prodigue des soins dans une situation de catastrophe et où les soins sont détournés pour perpétuer des actes de génocide. Donc c'est une situation de complicité involontaire, une situation de dilemme éthique pour lequel l'éthique médicale ne nous donne aucune réponse. Donc il y a différents champs de l'éthique dans la pratique humanitaire. L'éthique de la santé publique est un autre champ auquel les humanitaires peuvent se référer, mais qui, encore une fois, ne donne pas une réponse à toutes les questions.
Alors, une question de définition. La morale, c'est quelque chose dont on penserait que ça s'applique à tous. Oui. L'éthique paraît, dans ce que vous... la façon dont vous l'évoquez, comme un espace un peu plus... il y aurait différentes éthiques qui seraient liées à différents métiers, différents espaces ou conditions de travail. Alors comment s'y retrouver entre ces différentes notions ?
C'est compliqué parce que, d'abord, entre morale et éthique, il y a souvent une confusion. La définition la plus fréquente, c'est que la morale, c'est une histoire personnelle. C'est notre façon de voir le monde et notre façon de décider entre ce qui est bien ou ce qui est mal, entre ce qui est juste et ce qui est injuste. Si j'exprime une opinion de nature morale, à la limite, je ne dois pas m'en justifier. Ou bien je peux faire référence à un raisonnement, ce que la plupart des gens ne font pas. On ne va pas commencer à raisonner sur chacune de nos prises de position, mais on peut se référer à une idéologie, à une religion, à notre éducation, à notre culture, donc c'est très variable. L'éthique, c'est un débat sur la rationalité de nos jugements moraux. Donc la morale consisterait à dire « je pense que ce comportement est meilleur que cet autre comportement ». L'éthique serait de dire « à quelle valeur est-ce que vous vous référez pour dire que le comportement A est meilleur que le comportement B ? Quel est votre raisonnement ? De quelles circonstances, quels faits, quelles considérations tenez-vous compte pour faire un tel jugement ?» Et donc, on voit tout de suite que l'éthique est plus intéressante puisque ça oblige à un dialogue et oblige à une réflexion profonde, une réflexion qui parfois nous amène à revoir nos jugements moraux. Il y a une définition qui est philosophique, qui réfère à la philosophie de Kant, qui en gros dit la manière de décider si un comportement est juste ou injuste, c'est de je simplifie à l'extrême, c'est de dire agis vis-à-vis des autres en imaginant que cette action puisse être érigée en règle universelle. Donc ça, c'est un des trois fondements classiques de l'éthique occidentale, avec l'utilitarisme et l'éthique des vertus.
Est-ce qu'on peut s'arrêter un moment sur ces référents éthiques utilitaristes, égalitaire peut-être ou...
Alors l'éthique utilitariste, c'est une éthique très, très pragmatique et intuitivement assez facile à comprendre, qui dit qu'une action est bonne si elle aboutit à maximiser le bien pour le plus grand nombre de personnes et à minimiser le mal pour le plus grand nombre de personnes. Alors, intuitivement, c'est quelque chose qui est facilement applicable et qui semblerait adaptable à la plupart des situations. Et c'est d'ailleurs dans les situations d'urgence où on pratique une éthique utilitariste, la plupart du temps, sans le savoir. Évidemment, ça a des limites, parce que comme hier, nos collègues donnaient un exemple, 5 personnes ont besoin de transplantation d'organes. Apparaît une 6e personne qui est en bonne santé, la transplantation d'organes va sauver la vie de 5 personnes. Est-ce qu'on va sacrifier la 6e pour prélever des organes? Donc cette éthique utilitariste poussée à l'extrême et dans des circonstances particulières aboutit à des situations de sacrifier certaines personnes pour le plus grand bien de la majorité. Donc effectivement, c'est une éthique qui a ses limites.
Qui a quelques similitudes avec une réflexion sur la démocratie, par exemple. C'est-à-dire la démocratie, voilà, serait dans son acception la plus simpliste, la loi du plus grand nombre, mais la démocratie ne tient que si la majorité n'a pas tout pouvoir sur la minorité. Et en un sens, l'utilitarisme, la limite de l'utilitarisme serait d'asservir la minorité au plus grand bien pour la majorité.
Exactement. Et paradoxalement, une morale utilitaire poussée à l'extrême et appliquée de manière inconditionnelle aboutirait aussi à une forme de totalitarisme. Et c'est là le paradoxe. Une communauté, si la survie d'une communauté... Et c'est là qu'on peut introduire la notion de santé publique et la façon dont la santé publique, qui est quelque chose d'essentiel comme valeur, peut parfois s'opposer au bien individuel. Je donne un exemple. Si pour prévenir la circulation d'une maladie grave dans une population, il faut vacciner la totalité des gens, et que cette vaccination peut donner, dans des cas très rares, provoquer le décès ou provoquer des séquelles graves. Est-ce qu'on va prendre le risque qu'une personne souffre de ces effets secondaires pour assurer la survie ou l'absence d'infection de la majorité? Donc c'est au centre de la santé publique, et la plupart des gens répondront à cette question, oui, ça vaut la peine de prendre le risque qu'un individu souffre d'une mesure qui autrement va protéger la majorité. Donc la santé publique se base beaucoup sur des considérations utilitaristes.
Alors dites-moi si je me trompe, j'imagine que la distinction que vous avez évoquée ou esquissée entre éthique médicale et puis éthique humanitaire aurait justement trait à... Justement, ce rapport à la santé publique. L'éthique médicale serait principalement dans le rapport singulier du médecin avec son patient. L'éthique humanitaire implique un rapport avec des populations, comme on dit.
L'éthique humanitaire, ou les valeurs humanitaires telles que pratiquées par Médecins sans frontières, aussi sans arrêt entre une éthique de relation médecin-patient, où ce qui compte, c'est le patient qui est devant nous. Ce que les éthiciens appellent la victime identifiable, et les populations dont les besoins doivent être assurés. C'est aussi une tension entre l'urgence et des valeurs humanistes, et cette tension apparaît sans cesse. On pourrait dire, pour simplifier, que dans l'urgence, les organisations humanitaires applique plutôt une éthique utilitariste face à l'ampleur du désastre, d'un désastre, ou bien le nombre de victimes qui excède les ressources disponibles, tandis que dans d'autres programmes humanitaires, en dehors de l'urgence, c'est plutôt la relation personnelle vis-à-vis des patients ceux qui se trouvent devant nous. Et pourquoi ils se trouvent devant nous? Parce qu'ils ont eu peut-être la chance d'accéder à nos services, et donc c'est ceux-là qui sont privilégiés. Donc c'est une tension permanente et une source de ce qu'on appelle de souffrance morale, parce que certaines personnes, notamment qui ont un angle surtout clinique, ont du mal à faire, à la limite, ce sacrifice dans des situations d'urgence, qui est d'oublier la personne qui est devant nous et de considérer la survie de la population entière qui est menacée. C'est une tension qui est, à mon avis, au centre de la définition de la médecine humanitaire. La médecine humanitaire, c'est pas nécessairement la médecine tropicale, c'est pas la médecine d'urgence, c'est pas la médecine de catastrophe, c'est pas la santé publique, c'est d'accepter de se trouver au centre de ce conflit.
Ça me semble être une définition de travail utile. Je voudrais juste faire un petit aparté. On parle d'urgence et on a un fond sonore qui évoque un film catastrophe américain. Je ne m'amuse pas à dramatiser vos propos. Je précise à l'usage des auditeurs que cet entretien a lieu à New York et que donc c'est des ambulances new-yorkaises qui nous servent de toile de fond à ces débats éthiques. Parlons d'Ebola, puisqu'il me semble que à travers tous les fantasmes, les questions les interrogations qu'a pu soulever cette maladie, qui est généralement très fantasmée par les médias et par beaucoup de gens, parce qu'elle est éloignée de nous, elle a permis aussi de soulever beaucoup de ces questions que vous venez d'évoquer, ou de ces conflits, précisément, entre qu'est-ce qu'on fait pour un patient individuel et qu'est-ce qu'on fait pour une population à risque dans son ensemble. Alors, repartons peut-être de votre début sur cette expérience au Congo. En quoi est-ce qu'elle a été formatrice et en quoi elle vous a permis peut-être de regarder cette nouvelle épidémie à grande échelle dont on vient de faire l'expérience?
Alors, au Congo, c'était une expérience de courte durée, mais une expérience très intense. J'ai passé 3 semaines dans une petite ville qui s'appelle Kikwit. Où je suis arrivé à l'époque, je travaillais pour le centre de contrôle des maladies américain comme virologue, et puis je me suis trouvé parmi des chercheurs, des épidémiologistes, sans avoir vraiment de tâches qui m'étaient assignées. Et donc dès le premier jour, on a visité l'hôpital où il y avait beaucoup de victimes qui étaient mourantes, sans soins, ou bien qui était morte. Il y avait un abandon total de l'hôpital par le personnel soignant, parce que pour de très bonnes raisons, soit parce qu'ils étaient décédés eux-mêmes, soit parce que ils étaient malades, ou bien parce qu'ils jugeaient que le risque était trop important, et à juste titre, puisque jusque ce jour-là, ils étaient restés sans protection. Et je dois quand même rendre hommage à quelques infirmières et médecins qui sont restés sur place malgré tous les risques qu'ils prenaient, notamment mon ami de doctorat d'Oboaka, qui était le dernier médecin à se rendre au chevet des patients.
La description que vous faites de cette expérience au Congo, elle me rappelle beaucoup la peste de Camus.
Oui.
Et cette situation, finalement, avec très peu de moyens à disposition, oui. Où le premier enjeu est d'abord celui de l'isolement, avec des perspectives de mortalité qui sont... Enfin, la mortalité qui est la plus grande probabilité pour la plupart des gens qu'on va isoler, avec un niveau de coercition quand même... assez élevé en l'occurrence.
Absolument. Et d'ailleurs, maintenant, avec une distance de 20 ans, je commence à réfléchir sur les aspects éthiques de cette coercition. Juste pour revenir à cet épisode de Kikwit, donc la situation, c'était un pavillon d'isolement où les gens mouraient sans soins. La priorité, c'était la décontamination. Alors, c'est assez... difficile à décrire, et même je pense des photos ne rendraient pas justice à la situation. Donc il y avait des morts qui côtoyaient les mourants, des gens qui venaient d'arriver. Il y avait des risques de contamination partout. Les seringues et les aiguilles étaient jetées sur le sol, sur les matelas. Il y avait les aiguilles attachées au set de perfusion qui restaient pendues dans le vide. Il y avait un risque énorme. Et donc, pendant 2 ou 3 jours, avec mon collègue, c'est le docteur Pierre Rollin, et quelques infirmiers et infirmiers volontaires, nous avons entrepris la décontamination tout en continuant à admettre des patients. Donc, ce qui veut dire que nous n'étions pas en mesure de soigner les patients. Il y avait d'autre part un certain nombre de personnes qui étaient convalescentes et qui n'avaient pas quitté l'hôpital, d'abord parce qu'ils étaient membres du personnel de l'hôpital et puis aussi parce que ils étaient rejetés par leur famille et leur communauté. Et donc, nous avons ouvert un pavillon pour les accueillir. Nous avons considéré qu'ils n'étaient plus contagieux. Et donc, dans la mesure où leur état de leur santé le permettait, nous les avons engagés pour aider à gérer cette situation d'isolement. Et notamment, ils ont été mis en charge de l'éducation des accompagnants des patients. Alors, c'est une stratégie qui n'est plus appliquée de nos jours, puisqu'on va vers une protection absolue avec les équipements protecteurs intégraux, je dirais. Mais à l'époque, d'abord, nous n'avions pas accès à ces équipements protecteurs de type scaphandre. Et d'autre part, par nécessité, les patients n'étaient pas nourris autrement que par les familles. Donc nous n'avions pas le choix que de laisser un membre de la famille accompagner les patients dans la situation d'isolement. Il se fait qu'aucun de ces accompagnants n'a été contaminé par le fait d'être présent et d'être protégé que par une double paire de gants. Donc on est dans une situation extrêmement différente de la technologie actuelle où la contamination est réduite quasiment à zéro dans l'isolement au prix d'un équipement extrêmement lourd et au prix d'une solitude extrême des patients qui sont en isolement, ce qui rend d'autant plus l'isolement problématique d'un point de vue éthique, puisque on invite par une coercion implicite, c'est-à-dire en ne donnant aucun choix, aucune alternative, on invite maintenant les patients à venir en isolement sans possibilité de contact avec leur famille. Ce qui est une situation difficile pour ceux qui vont mourir. Alors évidemment, certains progrès ont été faits plus récemment, mais c'est une chose dont on a, à mon avis, très peu pris conscience lors de l'épidémie actuelle.
On va revenir peut-être plus en détail sur qu'est-ce qui distingue et ce qui rapproche ces expériences à 20 années d'écart. Mais effectivement, on a assisté à des scènes de violence hein, dans le cadre de la gestion de la réponse à cette épidémie. Et parmi les arguments les plus simplistes, c'était les Guinéens, les Libériens ne comprennent pas la maladie, croit que le blanc vient les contaminer, et on n'a pas souvent fait attention à cette dimension éthique et à la violence qui accompagne la réponse et la prise en charge de l'épidémie.
Alors en Guinée, on a les agents de santé publique, les autorités ont appelé ça des réticences à partir du mois d'octobre 2014, après les avoir appelés d'un terme qui, à mon avis, est plus juste, qui s'appelle résistance. Et il y a beaucoup d'analyses qui ont été faites de cette situation. Je dirais d'abord que si on reprend l'histoire des épidémies d'Ebola, il n'y a rien de nouveau. Dans chaque épidémie, il y a eu des rumeurs qui ont couru sur l'origine du virus, sur l'origine de la maladie, sur le rôle des équipes internationales, des actes de violence parfois ont eu lieu. Il y a 20 ans, notamment à la frontière entre le Gabon et la République centrafricaine. Donc c'est pas nouveau, c'est simplement que cette épidémie a magnifié tous ces phénomènes. L'explication traditionnelle qui en est donnée est de deux sortes. C'est une explication politique et une explication anthropologique. Alors l'explication politique est variée selon les pays, mais il s'agirait d'une défiance de la population vis-à-vis des autorités nationales, due à une histoire de conflits ethniques. Certains font remonter ça même à l'histoire coloniale, à l'existence de décès cliniques dans les décennies passées. Donc tout ça est, à mon avis, valable comme explication, mais c'est certainement insuffisant.
L'expérience de pouvoir abusif aussi, pouvoir, en l'occurrence de dictature, voilà. C'est le cas en Guinée, c'est aussi...
Je dirais au moins de défiance vis-à-vis du pouvoir et d'un sentiment que les autorités ne sont pas là pour aider les populations locales ou rurales. Viennent les anthropologues qui ont fait un travail remarquable depuis d'ailleurs plusieurs années pour essayer de comprendre les différentes visions et différentes compréhensions de la maladie Ebola et des modes de contagion. Alors c'est vrai qu'il y a des éléments culturels et que notre représentation de la maladie, qui est celle d'un virus, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu par définition, qui contamine les personnes, est basée sur des connaissances biomédicales qui ne sont pas nécessairement partagées. Et je dirais qu'en certains communautés n'acceptent pas cette vision et disent, mais regardez, le virus, il nous a été amené par ces équipes étrangères qui, soi-disant, viennent nous aider et, en fait, qui sprayent le virus à travers des liquides qui sont contaminés. Bien sûr, ce n'est pas la réalité, mais il faut reconnaître qu'il y a une certaine cohérence et une certaine logique dans ces représentations. Spécialement dans une situation où on ne fait pas confiance à ceux qui abordent des populations. Et moi, je dirais que aussi bien les explications politiques que les explications socio-anthropologiques sont valables, mais elles sont réductrices, elles sont insuffisantes. Pour parler concrètement, je dirais que si ici à New York ou bien à Genève, chez moi, on venait annoncer que par le simple fait qu'une personne a serré la main d'un cas d'Ebola, il faut venir immédiatement en isolement, sans autre forme de procès, avec désinfection intégrale de tout ce que je possède. Je me poserai des questions. Je ne suis pas sûr que j'accepterai cet état de fait, même si je partage les représentations biomédicales des autorités de santé publique. Donc cet aspect de perception des mesures de santé publique comme une coercion, à mon avis, est universel. Et cet aspect n'a été très peu été pris en compte, à mon avis. Surtout dans des circonstances telles que celles des trois pays les plus touchés en Afrique de l'Ouest, où dès le mois de juillet-août 2014, les autorités ont déclaré l'état d'urgence, avec une série de mesures coercitives et parfois des recours à la force publique extrêmement violents. Donc je ne suis pas étonné que dans ces circonstances, on nous dit que les familles cachent leurs patients, se rebellent contre la quarantaine forcée et finalement constituent un obstacle au contrôle de l'épidémie.
Ce que décrit d'ailleurs Camus dans La Peste, hein, oui, la ville d'Oran où se passe l'épidémie de peste qu'il décrit, et le lieu aussi de rébellion, d'opposition à la force publique. Donc en ça, là aussi, il y a une forme d'universalité. J'avais envie de m'arrêter justement sur ce que vous disiez. C'est-à-dire que on associe souvent l'anthropologie dans sa version ancienne, et je dirais presque, enfin, née en lien avec le colonialisme, qui est La culture, c'est les autres, nous, c'est la raison et la rationalité, et chez les Africains ou ailleurs, ce serait la culture qui expliquerait les mauvaises compréhensions, les mauvais comportements, etc. Or, la maladie d'Ebola, enfin la fièvre Ebola, elle a suscité nombre de fantasmes, y compris chez nous. L'un d'entre eux, c'était les questions qu'on posait beaucoup de gens, ou les scènes de panique qu'ont suscité le fait qu'on rapatrie dans leur pays des médecins expatriés, contaminés par la maladie, et dont on pensait que le fait de les ramener chez eux exposait la population des pays occidentaux ou de leur pays à une contamination imminente. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça? Quelle réflexion aussi, quel calcul éthique on peut faire sur le fait de laisser ou de ramener un médecin contaminé?
Alors, avant de répondre, je voudrais revenir sur cette question de l'anthropologie comme instrument de unilatéral, et je pense que l'anthropologie devrait être réciproque, et j'appellerai les anthropologues qui ont été envoyés pour étudier les perceptions et les croyances autour d'Ebola en Afrique de l'Ouest à venir aussi étudier les perceptions et les croyances chez nous, mais aussi parmi ceux qui sont en charge de la réponse aux épidémies. À titre de réciprocité, peut-être, mais aussi à titre de rigueur scientifique. Parce que je pense que nos représentations de la maladie sont aussi basées sur des présupposés qui ne sont pas nécessairement vérifiés ou vérifiables. Je donne un exemple, le virus Ebola est très contagieux. Ce n'est pas le virus le plus contagieux, ce n'est pas le virus le plus mortel. Et en tout cas, on n'a aucune évidence pour l'instant que le virus soit transmis autrement que par contact avec les personnes malades ou par contact avec les personnes décédées. Et donc, paradoxalement, on sait que le virus n'est pas aéroporté et on se comporte vis-à-vis des patients dans la manière dont on les soigne, aussi dans la manière dont la population les perçoit, comme si ce virus était parmi les plus contagieux. Donc il y a une espèce d'imaginaire là qui est dissocié de la réalité scientifique. C'est acceptable pour le public qui n'est pas nécessairement informé, c'est beaucoup plus critiquable pour, je dirais, la communauté scientifique et de santé publique. Voilà. Alors, pour ces réactions vis-à-vis des soignants qui seraient rapatriés, je les comprends très bien. Sans l'information précise concernant le comportement du virus, on ouvre la porte à des fantasmes qui sont d'ailleurs entretenus par un certain nombre d'écrits plus ou moins fictifs ou de commentaires, voire de films catastrophes. La réalité, c'est que pour les virus Ebola, les patients ne sont pas infectieux jusqu'au moment où ils présentent des symptômes. Donc il est extrêmement facile de contrôler la transmission. Les mesures de quarantaine qui ont été imposées aux États-Unis notamment, mais je pense aussi dans certains pays d'Europe, se justifiaient très peu à partir du moment où les personnes suspectes d'avoir été contaminées se prêtaient à des contrôles réguliers.
Qui était de la prise de température, en l'occurrence, voilà. Essentiellement le premier symptôme étant
la fièvre. Donc on se trouve dans des questions, pour revenir à l'anthropologie, des problèmes d'imaginaire, des problèmes de communication, et aussi une dimension politique aussi, parce qu'il est difficile de faire passer le message que, effectivement, on va laisser à la bonne volonté d'un médecin ou d'une infirmière la responsabilité de se prendre en charge lui-même ou elle-même. Et d'agir de manière responsable au moment où les symptômes apparaîtraient. Donc, principe de précaution absolue qui n'a pas de justification scientifique. Mais la science n'est pas tout ici.
Il y a à l'évidence, enfin, j'imagine que vous avez une dimension politique qui vise aussi à rassurer la population que les pouvoirs publics font tout pour empêcher toute forme de transmission et rassurer...
Alors dans les pays touchés en Afrique de l'Ouest, c'est beaucoup plus grave, parce que là, on met en quarantaine des familles, en quarantaine forcée avec intervention des forces publiques, Et ces mesures de quarantaine, comme plusieurs témoignages l'indiquent, aboutissent à des situations de détresse totale, des familles qui n'ont plus accès à la nourriture, plus accès à l'eau si l'eau n'est pas disponible dans les foyers, plus de moyens d'aller travailler, voire s'ils sont des populations rurales, la perte d'une occasion de faire les récoltes. Donc il y a des conséquences négatives qui dépassent beaucoup plus les bénéfices qu'on pourrait obtenir de ce principe de précaution.
Fin de la première partie.